j'ai reçu du Seigneur de vous parler d'un homme qui a vécu des bouleversements intérieurs assez phénoménaux. Et je rends grâce à Dieu que ça tombe juste aujourd'hui, puisque Eric vous a apporté cette nouvelle particulière. Et donc, je pense que c'est une parole de Dieu pour vous. Je voudrais vous parler d'Élie. À travers les trois chapitres de 1 Roi 17, 18 et 19, Élie vit des montagnes ascensionnelles, des montagnes russes. On ne va pas lire les trois chapitres, ça serait trop long, je pense que vous connaissez tous cette histoire. Élie est un homme de la même nature que nous, nous dit l'apôtre Jacques. Et ça m'interroge. Parce que dans le chapitre 17, quand je vois Élie près du torrent de Kérit, chez la veuve de Sarepta, qui multiplie le pain, qui multiplie l'huile, qui ressuscite un enfant, je me pose des questions sur ma propre nature. Vraiment ? Élie est peut-être de la même nature que nous, mais est-ce que moi j'ai la même nature que lui ? Un homme à l'écoute de Dieu, attaché à sa présence, attaché à ses paroles, obéissant. Quand je lis le chapitre 18, Élie devant Acab et le défi au Carmel, je me pose encore plus la question. Vraiment ? Je n'ai jamais fait descendre le feu du ciel, moi. Et vous ? Mais quand on arrive au chapitre 19, où je vois Élie qui se lamente, où je vois Élie qui rentre dans une espèce de dépression, de burn-out, on dirait aujourd'hui, je me dis, ah oui, là je reconnais quelque chose. Et en même temps, ça me questionne encore une fois, comment un prédicateur aussi remarquable, un porte-parole des paroles de Dieu, un contemplatif rempli de l'esprit, il dit, et la chose arrive, comment un homme comme cela peut en arriver à cela ? Alors, en reprenant ces trois chapitres doucement, je vous invite à les relire dans les jours à venir. J'ai réalisé qu'Élie a deux failles et que ces deux failles, elles sont en vous, elles sont en moi. Et c'est ces deux failles qui ont conduit Élie au découragement. Alors, on ne va pas lire les trois chapitres, je vous l'ai dit, on va lire seulement certains passages. La première de ces failles, c'est la suivante. Élie est tellement convaincu de la vérité de ce qu'il vit, qu'il n'écoute plus les autres. La parole des autres semble ne plus pénétrer en lui. Ce n'est plus important pour lui d'écouter les autres. Dieu lui parle. Il est en connexion directe. Il est un homme de Dieu, n'est-ce pas ? Alors on va lire un premier passage dans 1 Roi 18 et on va voir ce qui se passe dans le cœur d'Élie. Verset 1. « Bien des jours s'écoulèrent. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Acab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. » Élie alla se présenter devant Acab. La famine était intense à Samarie. Acab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes. Il les avait cachés, 50 par 50, dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias, « Va par le pays, vers tous les points d'eau, vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin ainsi d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Acab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur, Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton seigneur, autrement dit Acab, voici Élie, Alors Abias dit, « Quel péché ai-je commis ? Pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab qui ne te trouvera pas, qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à mon Seigneur, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui même, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport et Akab se rendit à la rencontre d'Élie. C'est un passage qu'on lit peu souvent et on peut se demander qu'est-ce qu'il fait ici. Le sens de ce passage se trouve un tout petit peu plus loin. Au verset 21, Élie, face à Akab et face au peuple rassemblé, dit ceci. Écoutez bien. Jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés ? On connaît cette phrase. Extraordinaire ! Élie qui remet le peuple en cause. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit pas. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul. » Vous entendez ?« Je suis resté moi seul. » Et il y a 450 prophètes de Baal. Attends, Élie. Est-ce que tu es... sourd ? Où est-ce que tu mens ? Ou les deux ? Ou est-ce que tu es tellement aveuglé parce que tu es invité à vivre que tu n'as pas entendu ce qu'a dit Abdias ? Parce que nous avons quand même lu un texte où Abdias dit clairement : ne t'a-t-on pas rapporté ce que j'ai fait, ce qui veut dire qu'il y avait des rumeurs qui tournaient. Et en plus de cette rumeur, Abdias lui-même confirme, Élie n'a pas entendu. Abdias était fidèle à Dieu. Il utilisait sa position particulière dans le temple de Akab pour sauver d'autres personnes, elles aussi fidèles à Dieu. Et Élie n'a rien entendu. Est-ce qu'il tenait ces prophètes-là pour des faux prophètes ? Des prophètes de compromission ? Est-ce qu'il avait une conscience si aiguë de sa différence qu'il se plaçait involontairement au-dessus des autres ? Est-ce qu'il réalisait à ce moment-là qu'il construisait les bases de sa propre chute ? Certainement pas. Élie souffre ici d'un syndrome fréquent chez les chrétiens. Et c'est une première faille. C'est un syndrome puissant qui nous isole quand on en est atteint. Le syndrome de la différence. Et celui qui en est atteint risque de tomber dans des gouffres de désespoir. Et ce sont souvent des personnes engagées spirituellement qui attrapent le virus et qui deviennent ainsi malades de cette maladie spirituelle. Personne ne peut me comprendre. Je suis restée moi seule. N'importe quelle différence peut nous amener à penser comme cela. Une différence sociétale, professionnelle, conjugale, une maladie. J'ai dans mon église plusieurs personnes qui ont été atteintes très lourdement de cancer et qui, dans cette souffrance violente et physique, étaient tentées de dire Mais personne ne peut me comprendre et qui n'allait se confier qu'à d'autres personnes qui avaient elles aussi attrapé des cancers. Vous êtes au chômage, personne ne peut me comprendre. Vous êtes une personne qui n'a pas de diplôme dans une communauté où il y a beaucoup de diplômes, personne ne peut me comprendre. Ou l'inverse, vous êtes une personne diplômée dans une église où il y a peu de diplômés, personne ne peut me comprendre. Chacune de nos différences peut devenir un lieu d'isolement. Ce que je souffre est tellement particulier ou tellement violent que seuls ceux qui sont passés par là peuvent comprendre quelque chose à ce que je vis. Et encore, pas sûr, quel drame quand un enfant de Dieu tombe dans ce mensonge, parce que c'est un mensonge. Et Élie n'a pas su avoir le cœur ouvert. Il était tellement orienté vers sa mission, vers les paroles, la direction que le Seigneur lui avait donnée, qu'il a laissé les œillères s'installer. Et il a construit lui-même les bases de sa chute. Alors que Dieu a, selon moi, envoyé Abdias vers lui, permis cette rencontre pour ouvrir ses yeux et que justement il comprenne, même si d'autres servent autrement que moi, je ne suis pas seul. La profondeur de la difficulté, de la situation, de la particularité de la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur, ta différence ou même ton appel n'empêche personne de te comprendre. Jésus n'a pas vécu de longues périodes de chômage. Est-ce qu'il ne peut pas te comprendre, toi qui n'as pas de travail ? Jésus n'a pas été une femme seule à s'occuper d'enfants. Est-ce qu'il ne peut pas comprendre les femmes seules ? Jésus n'a pas vécu la vieillesse. Est-ce qu'il ne peut pas comprendre une personne âgée qui souffre physiquement ou qui souffre de solitude ? Jésus peut comprendre chacun, chacune d'entre nous et il donne son esprit d'amour, son cœur ouvert à chacun de ses enfants, ce qui veut dire que chacun d'entre vous qui recevez l'esprit du Christ, vous pouvez être ouvert et comprendre les situations des uns et des autres. Jésus n'a pas eu de cancer, n'a pas subi de chimiothérapie, et pourtant il comprend tous les malades. De plus en plus de personnes aujourd'hui souffrent de ce syndrome. Et peut-être que vous, vous pouvez aussi souffrir de ce syndrome. Peut-être même que votre communauté peut être un jour atteinte de ce syndrome. Par exemple, demain, ou dans les semaines à venir, face à un problème d'argent, face au fait que ces locaux ne vont peut-être pas trouver immédiatement un autre repreneur, eh bien, franchement, les adventistes, ils exagèrent. Ouais. Vous savez ce qui vient après dans nos têtes ? Ah, mais on ne le dit jamais. Certainement, ils sont moins spirituels que nous. Parce que nous, on a su avancer. Même nature que nous. Si vous tombez dans ce piège, vous devenez sourd à la parole de vos frères et sœurs dans la foi. Vous devenez sourd à leur amour. Si Élie avait écouté Abdias, s'il n'avait pas déjà été piégé dans son sentiment de solitude, s'il s'était remis en cause dans sa croyance fondamentale, il aurait peut-être évité la chute si terrible. Résistez à ces pensées d'isolement. Elles détruisent votre vie spirituelle, elles détruisent vos familles, elles détruisent votre communauté. Elles détruisent aussi le projet de Dieu pour vous individuellement et pour vous en Église. Vous n'êtes pas seul, c'est une force. Repoussez ces mensonges qui viennent de l'ennemi de vos âmes qui souhaite vous isoler. Dieu a placé à côté de vous des Abdias qui servent différemment, qui vivent des choses différentes, qui sont peut-être moins engagés ou autrement engagés que vous, en tous les cas selon vos critères à vous. Pour autant, ne les méprisez pas. Alliez-vous à eux. Les adventistes sont aussi vos alliés. Faille numéro 2. Élie s'attendait à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Il avait reçu des paroles de Dieu et sur ces paroles, il a construit un scénario. Et quand ce scénario ne s'est pas réalisé, il s'est senti humilié, rabaissé à ses propres yeux. « Je ne suis pas meilleur que mes pères », dit-il en 1 Roi 19:2. Et il est tombé à ce moment-là dans un découragement tellement profond qu'on l'apparente à cette dépression. « Prends ma vie, Seigneur. » Alors, quel était le scénario qu'Élie avait mis en marche ? Le texte nous le dit au chapitre 18, les versets 36 à 39. Élie est face au peuple, face aux prophètes, Et on lit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et d'Israël, pardon, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes le cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre, et ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Grosse scène de pagaille. Le scénario d'Élie était donc le suivant. Le feu tombe. Le peuple reconnaît que c'est Dieu qui est Dieu. Le peuple abandonne les Baals. Chose qu'il ne dit pas à ce moment-là, mais qui était certainement dans sa tête, Akab et Jézabel se repentent. Obligés. Et dernièrement, ça il le dit clairement, que le peuple que l'on reconnaisse aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par sa parole, qu'Élie soit reconnu prophète de l'Éternel. Dernier point essentiel pour lui. Mais les choses ne tournent pas comme Élie le pensait, comme il l'avait prévu, malgré toutes les manifestations surnaturelles qui ont accompagné l'épisode. Que se passe-t-il dans nos vies quand on fait des plans? Et que ces plans ne s'accomplissent pas tout à fait comme on veut? Celui qui construit un scénario serré et qui s'attache à la réalisation du scénario court le risque de ne plus rien comprendre aux circonstances, au plan de Dieu, pour lui, pour l'œuvre, si ses prévisions ne se réalisent pas. Cependant, il faut bien prévoir. Quand le Seigneur nous envoie, quand le Seigneur nous donne des projets, il nous demande de faire des prévisions, des calculs. Tous les évangélistes sont d'accord et d'une manière ou d'une autre nous parlent de ce travail de préparation. Je pense à ce texte qui nous dit de s'asseoir avant de construire une tour, de calculer la dépense. Ou quand il y a une armée qui vient devant nous, de voir combien ils sont, combien on est, le rapport de force, etc. Oui, on doit faire des prévisions, des calculs, mais il ne faut jamais les absolutiser. Or ici, Élie a fusionné dans son cœur son propre plan et la personne de Dieu. Et sa dépression suit immédiatement ce qu'Élie considère maintenant comme un échec. Comment définissons-nous l'échec? Comment définissons-nous la réussite? Si mes enfants ne se convertissent pas, s'ils ne sont pas encore convertis alors que l'Éternel m'avait donné ce verset, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans ma vie, dans ma foi? Est-ce que je continue à croire que Dieu reste au contrôle? Est-ce que je lâche prise? Si mes collaborateurs, si mes amis, voire mon conjoint ne me soutient plus? Si tout à coup les adventistes ne veulent plus acheter les locaux? Est-ce que je continue à croire que Dieu reste aux commandes? Ou est-ce que toute ma force intérieure s'effondre? Si mes plans professionnels, financiers se grippent, est-ce que je crois que Dieu reste au contrôle? Comme Élie, nous avons beaucoup de mal à ne pas nous sentir diminués, voire rejetés dans notre personne quand les choses ne se passent pas comme nous le pensions, lorsque nous nous sommes donnés corps et âme à un but. Comme Élie, quand un obstacle survient, ce qui devrait entraîner une remise en question, une prise en compte de nos limites, eh bien je tends à adopter un point de vue négatif. Et si je suis déjà dans une spirale de victimisation du genre « je suis tout seul au fond », eh bien alors c'est le fatalisme et c'est le pessimisme qui deviennent les lieux où je m'assieds. L'échec impacte toujours notre âme, même si ce n'est qu'un échec apparent ou un échec partiel. Et c'est bien, ne le nions pas. Ne nions pas notre peur de faire face à l'inconnu, et maintenant. Le nier revient à tomber dedans, comme Élie. Alors comment réagir quand je me suis laissée enfermer dans un carcan de découragement qui peut être fait de rancœur, de méfiance, d'aigreur, comme Élie? Comment faire? Notre premier réflexe de chrétien serait « Jeûnons et prions, chers frères et sœurs, soyons plus spirituels !» N'est-ce pas? 40 jours s'il le faut. L'enjeu est de taille, c'est la vente des locaux quand même. Hein, c'est l'apport pour toute la suite, etc. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à manger à Élie. Quand Élie part dans le désert, il est déjà en train de ruminer tout son mal-être intérieur, tout son sentiment d'échec. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne lui dit pas « Jeûne, mon frère, jeûne, jeûne, repens-toi de tes péchés. Tu as péché. Je ne sais pas où, mais tu as péché. » Il ne lui dit pas ça. Il le fait manger. Non pas une fois, mais deux fois. Si le jeûne ne semble pas être la réponse que Dieu donne au découragement, alors peut-être que le fait d'aller à la montagne, hein, vous savez là où il se révèle, on s'enferme dans sa bulle, on va dans son bureau, dans sa chambre, on ferme la porte, on prie 48 heures sur 24, comme ça au moins on est sûr d'avoir fait le maximum. Peut-être que ça c'est la bonne solution. Mais quand Dieu accueille son fidèle serviteur sur la montagne, eh bien je trouve qu'il est très ambigu, Dieu. Il dit quoi au verset 19, au chapitre 19? Quand Élie arrive, Dieu lui dit, tu fais quoi là? Pourquoi t'es là, Élie? Tu devrais pas être là. Tu devrais être au milieu de ton peuple. Est-ce qu'il est normal de jeûner quand nous sommes découragés? Oui. Est-ce qu'il est normal d'aller à la montagne de Dieu quand on est découragé? Oui. Mais Dieu nous appelle d'abord à regarder en nous-mêmes. Tu peux jeûner comme tu veux, tu peux t'isoler comme tu veux. Si tu n'apprends pas à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu n'avanceras pas, tu ne te débloqueras pas. Élie ne se prive pas de déballer sa diatribe amère devant le Seigneur. Je ne vais pas relire ce passage-là, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais Élie le lui fait Dieu fait répéter deux fois à Élie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Disons-lui notre amertume. C'est ce que Éric nous a invités ce matin à faire, à travers la lecture de ce psaume. Disons-lui nos échecs. Disons-lui nos ressentis secrets. Disons-lui nos peurs. Et puis attendons la réponse de Dieu, parce que Dieu répond quand le croyant est clair, est ouvert devant lui. Pourvu qu'on accepte de se laisser toucher, de se laisser déplacer par ce que le Seigneur dit. Et qu'est-ce que Dieu dit après le double déballage d'Élie? Dieu lui dit « Tu te trompes sur qui je suis ?» Et tu te trompes sur l'endroit où tu devrais être. Étonnante réponse de Dieu. Hein, il envoie Élie donner l'onction à trois personnes. On trouve ça tout à la fin du chapitre 19. Dieu envoie Élie donner l'onction à trois personnes. Un nouveau roi pour Israël. Un nouveau roi pour la Syrie. Et un nouveau prophète à ta place. Ah tiens, tu te sentais trop seul, Élie. Je vais te donner de la compagnie. Et puis Dieu annonce la guerre. Aïe, aïe, aïe. Et Dieu annonce aussi cette chose étonnante. Il y a 7000 croyants qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Autrement dit, le Seigneur dit à son fidèle serviteur, « 1. Je suis le maître de l'histoire. Je suis le maître de l'histoire, même quand j'agis comme toi, mon serviteur, ma servante. Tu ne le pensais pas, comme tu ne le prévoyais pas. C'est moi qui fais et qui défait les rois. C'est moi qui conduis les nations et c'est moi qui connais le nombre exact de fidèles. Il a dû se prendre une claque, Élie. Il pensait être resté tout seul. Abdias lui avait bien dit qu'il y en avait au moins une centaine, 50 d'un côté, 50 planqués de l'autre. Il n'a pas voulu l'entendre et maintenant le Seigneur lui dit « Non, non, il n'y en a pas 100, il y en a 7000 !» Bim. Ok, Seigneur. Le texte ne nous parle pas d'une repentance, mais je pense qu'en entendant ce chiffre, Élie a dû se sentir très, très mal. Il a réalisé qu'il y avait un monde entre ce qu'il était en train de vivre et la réalité de Dieu. Quand Élie reprend la route, il n'est plus le même que celui qui est parti découragé, déprimé. Il répond ensuite à Élisée avec douceur, quand il appelle Élisée à le suivre. Il répond avec humanité. Il est sorti de son isolement, il a entendu le cœur de Dieu, il s'est laissé déplacer. C'est difficile pour nous, frères et sœurs, de nous laisser déplacer. Quand nous avons des convictions profondes, quand nos croyances se sont enquistées de telle sorte qu'on n'arrive plus à les faire changer spontanément, il nous faut parfois des crises comme celle qu'Élie passe pour que nous puissions à nouveau entendre les dimensions dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Ce qu'Élie a compris, c'est que Dieu était différent de ce qu'il croyait. Il a compris aussi que lui-même n'était pas celui qu'il pensait être. Et ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans chacune de nos vies. Peut-être que votre projet se déroulera autrement que ce que vous aviez imaginé. Peut-être que la façon dont vous-même vous vous projetiez dans ce projet ne s'accomplira pas comme vous l'aviez imaginé. Est-ce vraiment important ? Oui et non. Non, parce que tout est dans la main de Dieu, il est le maître de l'histoire. Et oui, c'est important que vous sachiez quelles étaient vos perspectives pour pouvoir avoir suffisamment de force en vous pour les laisser bouger lorsque le Saint-Esprit change de direction. Il faut une maturité individuelle et collective pour cela. La prière, le jeûne, la présence de Dieu ne suffit pas. Il faut la fraternité aussi, le lent travail, l'apprentissage, l'écoute les uns des autres. La réception humble de la différence de mon frère et de ma sœur. Et je crois que vous y êtes à ce point-là. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce, parce que Dieu va façonner dans votre communauté les éléments nécessaires pour qu'ensuite, dans le nouveau local, quelle que soit la façon dont ça va se passer, vous puissiez avoir cette ouverture intérieure, cette élasticité intérieure suffisante pour accueillir tous ceux qui vont venir. Parce que quand il y a un projet comme ça dans une église, Dieu travaille et Dieu va envoyer. Dieu va envoyer des gens auprès de vous pour qu'ils reçoivent des paroles de vie, des paroles d'amour, des paroles de guérison. Si vous restez dans la dureté des lits, à construire les choses d'une façon serrée, cadrée, comment pourrez-vous accueillir des hommes et des femmes brisés, blessés, dans des situations rocambolesques ? Il faut cette élasticité de cœur et cette humilité qui vient lorsqu'on traverse une crise, lorsque Dieu défait les croyances fondamentales. C'est douloureux, mais c'est glorieux. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne dans ce projet. Je crois comme Eric, comme Diana, avec qui nous avons parlé hier soir de cela, je crois comme Eric et Diana que c'est Dieu qui permet cela pour que vous puissiez non plus vous confier dans un projet qui roule, mais en lui uniquement. Le temps de douleur est un temps de croissance. La souffrance est un chemin de vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et que sa gloire resplendisse au milieu de vous par l'adjonction de dizaines et de dizaines de personnes que vous saurez accompagner, que vous saurez aimer, parce que vous compterez sur la présence de Dieu seul et non plus sur un timing parfait. Amen.